Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Elle est censée arriver sur les smartphones l'année prochaine, mais quel effet aura-t-elle sur la santé? La 5G pose question ce matin encore à l'aube d'un rapport de l'inspection des affaires sociales. Il est remis aujourd'hui au gouvernement. Ses opposants sont nombreux à s'inquiéter, vous l'entendrez.
La quatorzaine deviendra-t-elle une septaine? Le gouvernement réfléchit à réduire la durée de l'isolement en cas de soupçon de Covid-19. Analyse d'un infectiologue à suivre.
Nous irons à Londres, où reprend aujourd'hui le procès en extradition de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks apparaîtra affaibli, c'est ce que nous dira notre correspondant.
Et puis nous nous intéresserons à la nomination difficile du nouveau contrôleur des lieux de privation de liberté. Le poste est vacant depuis 2 mois.
Cette question enfin, quel est le point commun entre l'actrice Marina Foïs et le maire de Bordeaux, Pierre Urmic? Réponse après ce journal avec le billet politique de Frédéric Seyss. Les fréquences 5G ne soulèvent pas de questions de santé. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a balayé d'une phrase les inquiétudes sur ces nouvelles fréquences que le gouvernement veut mettre sur le marché en fin d'année. Rien de nouveau, nous dit donc le gouvernement. Les associations qui luttent contre cette 5G, elles s'insurgent, elles demandent un moratoire. D'autant qu'un rapport commandé au début de l'été à l'Inspection générale des affaires sociales et de la santé, un rapport doit justement être remis au gouvernement aujourd'hui, Tara Schlegel.
Ceux qui combattent la 5G affirment que l'effet des ondes 2, 3, 4G, les ondes actuelles, sur les organismes vivants est largement sous-estimé. L'OMS a classé les radiofréquences comme peut-être cancérigènes pour l'homme, c'était en 2011, mais depuis, bien des études sont sorties. Celle, par exemple, du NTP, le National Toxicology Program américain. Il montre, en 2018, que les rats mâles fortement exposés aux ondes développent des tumeurs au niveau du cœur et que l'augmentation de ces maladies est statistiquement significative. Richard Fedge est anesthésiste à Thonon-les-Bains. Il insiste, lui, sur les cancers du cerveau.
Santé publique France dit qu'il y a 4 fois plus de gliome cérébral en 2018. Et parmi les causes, Santé publique France dit qu'il y a les champs électromagnétiques. Elle ne dit pas c'est les champs électromagnétiques. Elle dit qu'il y a les champs électromagnétiques. Mais les gliomes cérébraux, c'est une mortalité qui est majeure à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Et moi, je vais vous raconter une fois. Hein. Je pense que c'est important d'entendre ça. Quand vous avez quelqu'un porteur d'un gliome cérébral qui arrive dans un institut qui soigne le cancer du cerveau, et que la première question que vous pose le neuro-oncologue, c'est de quel côté vous téléphonez? Et la réponse du patient en face, mais du côté de la tumeur, docteur. Et c'est là où on en est. C'est-à-dire qu'on se doute, on a un certain nombre de certitudes, et on n'arrive pas complètement à le démontrer.
Avec les ondes millimétriques, celles qui seront utilisées d'ici très peu d'années, les effets sont encore plus méconnus. Certains disent qu'elles ne passent pas la barrière cutanée, mais elles auraient causé des cataractes, toujours chez les rats, et troublé le rythme cardiaque des grenouilles. Mais même si on n'a aucune certitude, insiste le docteur Fedge, qui milite aussi chez Santé Environnement France, il est indispensable de prouver la non-dangerosité d'une technologie avant de l'installer.
C'est pas à moi à aller dire c'est toxique, je dis c'est potentiellement toxique, c'est aux gens qui développent des technologies de dire elles ne sont pas toxiques. Et elles ne sont pas toxiques sur des années et des années.
Car les cancers mettent des années à se développer et il faut bien avouer que ces maladies augmentent considérablement dans nos sociétés ultra connectées.
Rien à voir avec la 5G, comme certains ont pourtant voulu le supposer. Mais le Covid-19 se propage encore dans le pays, avec 25 000 nouvelles contaminations ces 3 derniers jours en France. Dans les zones denses ou les zones à risque, le Conseil d'État valide le port du masque en extérieur. Cela concerne notamment Strasbourg, 12 autres villes du Bas-Rhin, ainsi que Lyon et Villeurbanne. L'idée est que cette obligation de porter le masque se fasse sur de grands périmètres pour qu'elle soit cohérente et facile à appliquer. Pour contenir là encore l'épidémie, il y a aussi l'isolement, la mise en quatorzaine. Eh bien, ce temps pourrait être réduit. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, envisage d'assouplir cette recommandation pour les cas contacts asymptomatiques. Il a demandé l'avis des autorités scientifiques car le sujet ne fait pas totalement consensus. Quand certains veulent que les tests se multiplient avant de pouvoir réduire l'isolement, d'autres y voient au contraire un bon moyen de relancer très vite l'économie en protégeant les patients. L'infectiologue Benjamin Davido, par exemple, s'en explique.
Aujourd'hui, la médiane d'incubation, on sait qu'elle est proche de 5 jours. On sait aussi que la plupart des contaminations sous un même foyer, ça a été montré dans des publications sérieuses par les Chinois, se font dans les 5 premiers jours, date à laquelle la charge virale est la plus élevée. Tous ces arguments, mis bout à bout, plaident pour probablement réduire la quatorzaine à une septaine. Il faut tout simplement respecter les mesures barrières, limiter ses déplacements au maximum. C'est exactement ce qui s'est passé pour les soignants à l'hôpital. Je vous rappelle que pendant le plus fort de la crise, quand nous, il y avait un doute, eh bien, on s'est fait dépister, on est retourné travailler avec nos masques. Vous imaginez, si tous les soignants qui étaient suspects, on s'était isolés pendant 14 jours, il n'y avait plus de médecins, plus d'infirmières à l'hôpital pour soigner les malades. Lorsqu'on porte un masque, eh bien, on est en isolement, on est en quarantaine individuelle, finalement. Il y a des jeunes qui travaillent, des jeunes qui sont des jeunes actifs, et je pense qu'on va décourager les jeunes lorsqu'ils vont se retrouver sujet contact et qu'ils sont majoritairement asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dater le début des symptômes et donc le début de la quatorzaine, si on ne fait pas un geste pour raccourcir cette durée d'isolement.
14 jours chez soi actuellement, cela décourage aussi les allers-retours entre certains pays. À cause de la quatorzaine imposée par le Royaume-Uni à tous ceux qui arrivent de France, les clients se font rares pour les compagnies maritimes et notamment pour la Brittany Ferries. Elle vit la pire crise de son histoire. Entre le confinement au printemps, la crise économique et toujours le repli du tourisme. Faute de passagers et en raison d'importantes difficultés financières, la Brittany Ferries va désarmer aujourd'hui 2 nouveaux bateaux. Les liaisons se réduisent encore, Catherine Pétillon.
Cherbourg, Saint-Malo, Le Havre. Jusqu'au mois de mars, ces villes ne verront plus de bateaux de la Brittany Ferries partir pour l'Angleterre. La compagnie maritime ferme peu à peu ses lignes. Les bateaux resteront à quai et le personnel au chômage partiel. Pour payer ses fournisseurs et ses salaires, l'entreprise a emprunté 117 millions d'euros dans le cadre des PGE, les prêts garantis par l'État. Faute d'activité suffisante cette année, elle en appelle à l'aide des pouvoirs publics pour être en capacité de rembourser dès l'an prochain, tout en préservant l'emploi. Un plan interne devrait générer 15 millions d'économies via des CDD supprimés, des non-remplacements de départ à la retraite et la polyvalence des salariés, dont les postes et le temps de travail pourraient évoluer. L'entreprise a aussi obtenu des soutiens politiques locaux. Il faut dire que c'est un créateur d'emplois direct et indirect majeur dans la région. Les collectivités locales sont co-actionnaires de sociétés possédant une partie des bateaux utilisés par la Brittany Ferries. Un accord doit être signé cette semaine qui permettra à l'entreprise des économies sur les loyers, là aussi à hauteur de 15 millions d'euros. Les députés de la région ont aussi porté l'appel fait au gouvernement. La Brittany Ferries demande une exonération des cotisations salariales des marins, comme c'est déjà le cas pour les cotisations patronales. Une mesure de compétitivité avec ses concurrents mondiaux, estiment les dirigeants. Sur le principe, l'appel à l'aide semble en tout cas avoir été entendu par le gouvernement. « Nous sommes prêts à soutenir l'entreprise pour bâtir un modèle économiquement viable sur le long terme », a déclaré la semaine dernière Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie a ainsi mandaté le comité interministériel de restructuration industrielle pour étudier la situation de la compagnie.
Catherine Pétillon, dont vous pouvez retrouver le reportage de la rédaction de ce matin tourné à Roscoff auprès des clients et des salariés de la Brittany Ferries. Il est en ligne sur franceculture.fr. Liaison difficile entre la Grande-Bretagne encore et l'Union européenne. Les négociations sur le Brexit entrent dans leur phase finale ce lundi. Et selon Boris Johnson, un accord avec l'Union devra être trouvé avant le 15 octobre prochain s'il veut entrer en vigueur avant la fin de l'année. Le Premier ministre britannique ne transigera pas sur son indépendance, mettant un peu plus la pression sur Bruxelles aujourd'hui. Les dessous de ces discussions dans la revue de presse internationale, elle est à retrouver en podcast.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Julian Assange est de retour devant le tribunal à Londres.
Oui, pour son procès en extradition qui reprend après une suspension due à l'épidémie de Covid-19. Les États-Unis demandent à ce que Julian Assange soit extradé pour pouvoir le juger de l'autre côté de l'Atlantique. Il y risque jusqu'à 175 ans d'emprisonnement pour avoir publié via Wikileaks des documents relatant de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine. Pour y échapper, Julian Assange s'était retranché dans une ambassade à Londres avant d'être interpellé. Il est depuis très affaibli, Richard Place.
Dans sa cellule de la prison de Belmarsh, au sud-est de Londres, le détenu Assange va mal. C'est ce que répètent ses proches et ses soutiens. Il s'était volontairement cloîtré dans l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni pendant 7 ans, à l'étroit mais à l'abri jusqu'à l'année dernière. Dans cette prison volontaire, il est devenu père 2 fois et ses enfants lui manquent. Depuis le mois d'avril, du fait des restrictions sanitaires, il ne les a vus que pendant 45 minutes, avec des masques, des visières transparentes et l'interdiction de se toucher ou de se lever de sa chaise, sous peine de se retrouver à l'isolement pendant 2 semaines. Les appels vidéo sont interdits et les seuls coups de fil qu'il peut passer s'interrompent automatiquement au bout de 10 minutes. Amnesty International dénonce des conditions de détention qui s'apparentent, je cite, à de la torture et réclame l'abandon des poursuites par les autorités américaines. Avant cette nouvelle audience, Stella Morris, sa compagne, a déclaré au Times « Pour Julian, l'extradition serait une peine de mort ».
C'était Richard Place depuis Londres pour France Culture. Des manifestations à Hong Kong contre le report des élections législatives. Près de 300 personnes, dont plusieurs personnalités, y ont été arrêtées hier. Même cause, mêmes effets. Plus de 200 personnes arrêtées en Biélorussie hier après une nouvelle mobilisation des opposants à Minsk. Ils étaient près de 10 000 dans les rues hier pour demander le départ du président Alexandre Loukachenko. Plus à l'est, le bras de fer continue autour de l'opposant russe Alexei Navalny. L'Allemagne, qui l'accueille et qui le soigne, a demandé hier encore des explications sur son empoisonnement avant de possibles sanctions contre la Russie. Et justement, en Russie, que se passe-t-il pour l'opposition en l'absence d'Alexei Navalny? Des élections partielles régionales auront lieu dans une semaine dans le pays. Et le Front de lutte contre la corruption ne rate pas une occasion de se mobiliser partout en Russie, Claude Bruyot.
À Khabarovsk, à 7000 km de Moscou, le collectif d'Alexei Navalny est au cœur du mouvement d'opposition qui manifeste contre le Kremlin et contre l'arrestation du gouverneur local chaque samedi depuis 2 mois. L'absence de leur leader ne les a pas découragés. Pas davantage à Moscou, la stratégie du vote intelligent d'Alexei Navalny sera reconduite en fin de semaine à l'occasion des scrutins régionaux et locaux. En appelant à voter pour le candidat, quel qu'il soit, le mieux placé pour battre le représentant de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, les Navalnistes à Moscou ont fait perdre l'an dernier un tiers de ses sièges au camp présidentiel. Une stratégie payante pour l'opposant Alexandre Soloviev, 32 ans, qui a côtoyé Alexei Navalny dans son combat contre la corruption du pouvoir.
C'est un système idéal dans mon cas. Parce que ma candidature a été interdite, j'avais été arrêté et emprisonné. Parce que je m'opposais au candidat du pouvoir. Et grâce au vote intelligent, c'est mon idée qui s'est réalisée.
La difficulté pour le camp d'Alexei Navalny, qui revendique plus d'une cinquantaine de relais régionaux structurés, ne se situe pas au niveau de la mobilisation, mais davantage sur le plan financier, soumis à des saisies régulières et à de très fortes amendes.
Claude Bruyot pour France Culture. Revenons en France, où depuis le début de l'année, une trentaine de chevaux et de poneys ont été mutilés. Des agressions plus nombreuses encore cet été, sans explication pour le moment. Les ministres de l'Agriculture, Julien de Normandie, et de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se déplacent donc aujourd'hui dans l'Oise à ce propos. Une vraie démarche de sensibilisation, dit ce matin la Fédération française d'équitation. Gérald Darmanin qui s'exprime avant cela dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France et il pose un diagnostic. La France est malade de son insécurité, dit le ministre de l'Intérieur. Il s'engage donc à communiquer tous les mois les chiffres de la sécurité, notamment les résultats en matière de violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, le nombre de dérives sectaires signalées ainsi que les chiffres concernant la lutte contre les stupéfiants. Venons-en à présent à ce mauvais pas dans la valse des présidents des autorités administratives indépendantes. Cet été, le défenseur des droits Jacques Toubon a bien été remplacé par l'ancienne journaliste Claire Hédon, mais le poste de contrôleur des lieux de privation de liberté, lui, n'a toujours pas été attribué. Adeline Hazan l'a pourtant quitté en juillet. Pour la remplacer, aucun nom ne circule. Son futur remplaçant doit être nommé par un décret présidentiel et comme rien n'a commencé, il ne pourrait de toute façon pas prendre ses fonctions avant octobre, Anne Fauquemberg.
Avant d'être nommé, en effet, ce qui est loin d'être le cas, là où le successeur d'Adeline Hazan devra être entendu par les deux chambres parlementaires. Le Sénat étant en pleine période de renouvellement, ça ne sera pas possible avant la reprise des travaux début octobre. Situation désespérante pour l'OIP, l'Observatoire international des prisons. François Besse, le coordinateur du pôle enquête de cette association, appuie son action sur les comptes rendus du contrôleur des lieux de privation de liberté. Avec la vacance du poste, tout se complique.
Oui, un vrai pouvoir d'investigation, il peut aller où il veut en prison, il peut contrôler et observer tout ce qu'il souhaite. Nous, on travaille beaucoup sur la base des rapports et des interventions du contrôleur après. Au mieux, c'est de l'impréparation, je pense, c'est-à-dire que depuis 4 ans, on savait déjà que la date de départ de la contrôleur, c'était bien le 15 juillet, donc ça aurait pu être préparé en amont. Et alors sinon, est-ce que c'est ou de l'indifférence ou une volonté qu'il n'y ait pas de contrôleur?
Le doute s'instille et fait aussi réagir la Fédération française de psychiatrie, pourtant pas toujours d'accord ces dernières années avec le contrôleur des lieux de privation de liberté. Selon leur communiqué, l'actualité pandémique, bien qu'envahissante, devrait au contraire mobiliser largement puisqu'elle interroge l'exercice de nos droits fondamentaux, à moins de considérer que la prison et la psychiatrie n'intéressent plus l'exécutif.
C'était Anne Fauquemberg. La météo très rapidement, comme Pierre Gasly en Formule 1, qui est le premier Français depuis 24 ans à remporter un Grand Prix. Alors très rapidement, Guillaume, la météo, le temps s'annonce frais et ensoleillé, surtout l'Hexagone ce lundi. Comptez 10 degrés à Clermont-Ferrand ce matin, 12 à Rennes, 14 à Lille, Paris, Strasbourg, 15 degrés à Bordeaux et 20 degrés dans la matinée à Marseille.
Merci Clara Lecoq.